Culture politique.
Bonsoir. Il y a 10 jours, les Suisses se sont prononcés par les urnes sur Nobileg et le nouveau régime financier, mais on a aussi voté dans les cantons. Assurance dentaire dans celui de Vaud, transparence du financement politique à Fribourg et Schwyz, droit de vote à 16 ans à Bâle-Campagne et passage d'une partie des bourses d'études en prêt en Argovie. Des thèmes qui ont fait débat. Qu'en pense-t-on dans le Jura? Devrions-nous nous prononcer sur des objets similaires? On ouvre la discussion. Bienvenue dans Pure Politique.
RFJ, Pure Politique. Raphaël Chalvera.
Pour débattre, nous recevons le député CS Pop de Delémont, Pierre-Luigi Fedele. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, le président de la section Ajoulotte du PLR et conseiller communal à La Baroche, Marc Meyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus. Les citoyens vaudois n'ont pas voulu d'une assurance dentaire obligatoire. Une initiative du POP et de Solidarité a été rejetée par 57,7% des voix. Le texte proposait un accès aux soins dentaires garanti pour tous. Le financement se serait inspiré du modèle de l'AVS avec des employeurs et des salariés mis à contribution à part égale. Pierre-Luigi Fedele, on commence avec vous. Cette initiative émanait de la gauche alternative. Des textes similaires ont été déposés dans les cantons de Neuchâtel, Valais, Genève et Tessin. Et le Jura?
Alors le Jura, des discussions, des réflexions sont en cours parce que finalement la problématique que connaissent les citoyens des cantons que vous avez énoncés sont connues par les citoyennes et les citoyens jurassiens, c'est-à-dire que c'est un pilier de la politique sanitaire qui sont les soins dentaires qui est relativement peu pris en compte. Chacun doit assumer de manière, on l'appelle comme ça, responsable et individuelle ces coûts-là, mais ça pose des problèmes de plus en plus importants pour les, notamment pour les moyens et bas revenus, que d'assumer ces coûts-là. Des gens renoncent quelquefois à assumer ces coûts et renoncent à soigner. Donc je pense que la thématique politique, elle est aussi vive dans le Jura qu'elle peut l'être dans d'autres cantons.
Alors Marc Meyer, justement, des gens renoncent aux soins dentaires pour des raisons financières, Pierre-Luigi Fedele l'a invoqué. Aller dans le sens d'un remboursement dans le Jura, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée?
Écoutez, moi je ne crois pas. Bon, déjà il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce qui sera remboursé. Alors le mode de financement dans le canton de Vaud, je pense, c'était un mauvais financement parce que mettre ça au pourcentage du salaire, c'est finalement de nouveau charger la classe moyenne. Il faut savoir que dans le canton du Jura, on a à peu près 31-32% de la population qui est au bénéfice de subventions partielles ou totales de la LAMAL. Et dans ce cas-là, on se retrouverait probablement dans la même situation où les contribuables devraient financer tout ou partie de cette assurance. Donc ça veut dire des impôts supplémentaires pour la classe moyenne.
Une taxe supplémentaire, Pierre-Luigi Fedele?
Alors, comme dans toute proposition de ce type-là, notamment en politique sociale, ça a un coût. C'est un coût qui doit être assumé par la collectivité, mais qui répond en face à une prestation qui serait donnée, y compris à des gens de la classe moyenne. Dès le moment où vous mettez sur pied un modèle de ce type-là, qui est une assurance de soins dentaires, y compris les gens qui passeront à la caisse, mais tout le monde passera à la caisse, hein, parce qu'on parle beaucoup de la classe moyenne, c'est aussi la classe les plus aisées qui vont passer à la caisse aussi de manière fondamentale dans ce cadre-là. Ça, c'est des vraies politiques de solidarité, mais y compris les gens des classes moyennes pourront bénéficier d'un remboursement d'une partie, en tout cas, de leurs frais dentaires. Donc je veux dire, oui, il y a un coût, mais c'est des prestations qui bénéficient à l'ensemble de la collectivité par la suite.
Alors, si cette initiative vaudoise avait été acceptée, le coût annuel se serait élevé à 300 millions de francs. Alors, Pierre-Luigi Fedele, est-ce qu'on doit parler de gros sous, finalement, dans ce genre de proposition?
Non, mais encore une fois, je pense que c'est des politiques à courte vue mais qui sont très à la mode actuellement. C'est des logiques d'austérité pure où on dit c'est 300 millions, on n'a pas les moyens de les mettre, on ne veut pas les mettre. Mais encore une fois, le non-traitement de certains problématiques, le fait que des gens abandonnent purement et simplement le fait de soigner au niveau dentaire, occasionne pour la société des coûts indirects parce que ça provoque d'autres pathologies. Les soins dentaires sont un axe important des politiques sanitaires et ça occasionne pour la société des coûts indirects qui sont absolument importants. Donc il ne faut pas avoir de vision à courte vue. On ne gère pas les deniers publics quand on gère le budget d'une entreprise ou d'un ménage. C'est d'ailleurs une allusion qui est fréquemment utilisée mais que je ne supporte pas. On a des réflexions qui doivent aller au-delà simplement des budgets de l'État à ce niveau-là.
Alors Marc Meyer, face à l'augmentation des coûts de la santé, on pourrait imaginer qu'une aide pour les soins dentaires serait appréciable pour le porte-monnaie des gens. Est-ce qu'on doit absolument fermer la porte ou alors d'autres solutions pourraient être envisageables selon vous ?
Bon, déjà, il faut savoir que pour les cas de maladie, la malle prend en charge un certain nombre de soins dentaires. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a une différence entre la maladie et puis l'hygiène dentaire. On peut tomber malade de la grippe par fatalité. Bon, il y a des moyens prophylactiques, on est d'accord. Mais pour ce qui concerne les soins dentaires, c'est différent. Une carie, c'est pour l'immense majorité de la population, ce n'est pas une fatalité. Ces 40 dernières années, on a beaucoup investi dans la prophylaxie. On a vu chez les enfants le nombre de caries diminuer de 90% en 40 ans. Voilà, donc...
Donc finalement, Pierluigi Fedele, peut-être pour répondre, c'est une question de se prendre en main, finalement, d'avoir une bonne hygiène, et puis ça passe.
Oui, mais encore une fois, la responsabilité individuelle, c'est un discours libéral récurrent, mais vous pouvez l'appliquer à d'autres pathologies. On sait, par exemple, est-ce qu'on va venir à une solution où on ne financerait plus notamment les traitements pour les cancers ? On sait qu'une partie des cancers sont dus à nos modes de consommation. Est-ce qu'on ne finance plus ? On est en train de le faire, mais c'est le contraire, hein, le dépistage du cancer du côlon. Mais parce qu'on est des mangeurs de viande dans le Jura, puis qu'on sait que ça a une répercussion sur ce type de pathologie, est-ce que là, on ne dit pas aussi « responsabilisez-vous, devenez vegan, par exemple ?» Ce qui n'est pas du tout mon ambition personnelle, en tout cas. Mais devenez vegan, et comme ça, on aura moins à traiter de cancer. Et si vous tombez malade suite à ce type de consommation, vous prenez en charge, c'est applicable à quasiment l'ensemble des pathologies qui sont couvertes aujourd'hui par les assurances. Donc, encore une fois, je pense que le discours ne se trouve pas là. Le discours, c'est simplement celui d'un discours politique, public, habituel depuis une vingtaine d'années, qui veut que dès le moment où il y a une prestation sociale qui est proposée, on la refuse.
Marc Meyer, les partisans de cette initiative dans le canton de Vaud disent que 90% des frais dentaires sont payés par les ménages et que 0,5% du salaire permet de financer une assurance. Est-ce que ces chiffres ne doivent pas interpeller et créer le débat aussi chez nous dans le Jura ?
Peut-être, mais quand on dit 0,5% du salaire, on dit c'est rien. Oui, mais tout le monde a déjà reçu une fiche de paye, en tout cas la plupart des salariés, et puis sur un salaire théorique, on se rend compte qu'il y a un petit peu, il y a 5% pour la VS, il y a pour la LPP, le chômage, etc. 0,5 plus 1 plus 2 plus 3, et on constate, si vous avez un salaire théorique de 5 000 francs, qu'en fait, vous touchez 4 200 francs sur votre compte en banque. Donc, cette politique-là de dire, mais c'est pas grave, c'est juste une petite goutte en plus, oui, mais ça peut aussi être la goutte qui fait déborder le vase, et qui aussi renchérit le prix de la main-d'œuvre en Suisse, bon, ou dans le canton du Jura.
Alors, on verra si le Jura se prononcera un jour sur une assurance dentaire obligatoire. Pierluigi Fedele a parlé d'une réflexion à l'heure actuelle. On va parler du deuxième objet au programme ce soir, l'initiative pour la transparence du financement politique, acceptée par 68,5% des Fribourgeois, un texte qui était proposé par les jeunes socialistes et les jeunes verts. Le canton de Schwyz a dit oui à une initiative similaire à 50,3%. À l'époque, Bâle-Campagne-Argovie avait dit non en 2013 et 2014. À Fribourg, pour revenir à Fribourg, le Conseil d'État et le Grand Conseil avaient appelé au rejet de cette proposition qui demande donc aux partis politiques de dévoiler leur budget de campagne et leurs gros donateurs. Ce sujet fait débat. Marc Meyer, aujourd'hui, Neuchâtel Jeune et Veltessin disposent d'une réglementation sur la transparence politique. Fribourg et Schwyz arrivent. Alors, avant de voter à l'échelle fédérale, peut-être l'année prochaine, est-ce que les partis jurassiens ne doivent pas aussi jouer carte sur table. Le PSJ va d'ailleurs le demander. Il a déposé une initiative tout récemment.
Oui, j'ai vu. Bon, disons que s'il y a une réflexion qui se fait au niveau fédéral, je ne pense pas que ça soit utile de mettre la charrue avant les bœufs dans le canton du Jura. Bon, fondamentalement, j'imagine que vous pensez bien que personnellement et mon parti aussi, nous sommes opposés à cette transparence, non pas parce qu'on a des choses à cacher, mais parce que chacun doit pouvoir rester libre de financer ou non un parti politique et sans pression. Si vous avez donné quelques milliers de francs au Parti libéral radical ou au PDC, peut-être que quand les gens sauront, on va dire « Ouais, mais pourquoi tu nous as pas donné à nous ?» Et puis là, notamment, puisqu'on sait très bien, hein, c'est les milieux économiques qui financent majoritairement les partis bourgeois, il ne faut pas que ça puisse péjorer leurs affaires, de dire « Ah, mais bon, lui, il a donné à ce parti-là, donc moi, je ne fais plus d'affaires avec lui. » Ça, c'est, à mon avis, c'est pas ça. Et puis, c'est contre productif aussi.
Pierluigi Fedele, vous qui êtes partisan d'une transparence, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de voyeurisme dans le fait de publier le financement des partis ?
Non, je ne pense pas. Je pense que ça a à faire avec la conception de la démocratie telle qu'il faudrait la pratiquer. C'est-à-dire que, voilà, on a un fonctionnement politique qui prévoit des majorités, des minorités, avec des partis politiques qui organisent le débat public, mais avec des moyens certainement très différents. Et ces moyens différents et les sources de financement qui permettent d'avoir des moyens pour mener certaines campagnes ont à faire avec le type d'idéologie qu'on veut développer et qu'on veut défendre publiquement. Et sans aller forcément dans le détail de savoir qui paye quoi, mais de savoir que le PLR ou le PDC ont des financements à hauteur de tant des entreprises privées jurassiennes, je pense que les jurassiens sont en droit de le savoir. Et au final de savoir pour qui on mène les politiques, pour la population, pour les gens qui financent notre activité. Et je pense que ça a fondamentalement à voir avec la démocratie. Moi, je ne suis pas un fan de la transparence en tant que telle. Je trouve qu'on est une société qui développe trop la transparence, mais pour des affaires privées. Maintenant, vous allez sur Facebook, vous connaissez la vie de votre voisin de A à Z, et je trouve que ça, c'est malsain. Mais la transparence dans le fonctionnement des institutions publiques, je pense qu'elle est fondamentale.
Alors, Marc Meyer, qu'est-ce que vous craignez finalement à l'idée que les partis dévoilent leurs ressources financières ?
Alors, premièrement, j'aimerais dire à M. Fedele que les partis politiques ne sont pas des institutions publiques, ce sont des associations privées au sens des articles 60 et suivants du CCS. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Pour revenir sur ce qu'a dit M. Fedele, l'argent ne fait pas les idées. Et on l'a vu, notamment avec le Gripen, les moyens financiers qui ont été mis en jeu pour faire passer cet avion n'ont pas suffi. Et pourtant, on était dans des rapports de presque 1 à 10, je crois. C'était quelque chose de fou. Donc ça veut dire que si le peuple, il n'est pas idiot. Il n'a pas besoin de savoir que c'est Novartis, UBS, Nestlé ou je ne sais pas qui finance. Qu'est-ce que ça va apporter de plus de savoir que Christophe Blocher finance l'UDC à raison de 3, 4, 5, 7, 8 millions de francs par année ? Ça n'apporte rien du tout. Nous sommes ici dans un système de milices. La plupart, l'immense majorité même des politiciens le font quasiment à titre de bénévole, hein. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est que d'abord, on va dire, on veut de la transparence, puis après, on va dire, ah non, mais UBS peut plus financer le Parti libéral radical ou le PDC. Donc maintenant, il faut institutionnaliser tout ça. Il faut prendre tant de pourcents, vous avez tant de pourcents au Parlement, donc vous avez droit à tant. Et puis, on va à un financement public des partis politiques, avec les dérives qu'on peut voir, notamment si vous avez un tout petit peu suivi ce qui se passe avec le financement de la campagne de Mélenchon, où il a fait de la surfacturation. Enfin, j'entends, c'est, à mon avis, c'est pas ça.
Réponse, Pierluigi Fedele ?
Non, mais je rassure M. Meyer, je pense que les majorités en place, qui sont les partis qui touchent l'argent des milieux privés, ont encore, pour quelques années apparemment, la majorité aux chambres, on arrivait un jour à ce que cette majorité-là décide de financement public alors qu'ils sont sous perfusion permanente de financement privé. Je ne pense pas qu'on y arrivera. Je pense que, encore une fois, la discussion est ailleurs. Et de balayer d'un revers de main le fait que ces financements privés ont une influence sur le discours des partis, ont une influence sur ce que décide le peuple, parce que vous donnez un exemple, mais pour un exemple, il y en a des centaines d'autres qui vont dans le sens contraire. Et que tout ce financement par des intérêts privés sont en fait ont pour but en fait de rien changer au fonctionnement actuel de la société, c'est-à-dire de protéger des intérêts privés, c'est de facto une réalité. Et je comprends bien le malaise des partis qui souhaitent pas qu'on aille mettre le nez dans certaines de leurs affaires, mais encore une fois je pense que c'est vital pour le regain de la démocratie puis de la confiance que les citoyens accordent de moins en moins aux partis politiques.
Mais est-ce que pour vous, Pierluigi Fedele, quelque part, le problème, ce n'est pas le trop gros déséquilibre entre les partis jurassiens ? C'est vrai que CS Pop, vulgairement dit, est présent en ville de Delémont, le PLR de M. Meyer partout dans le Jura, c'est ça qui vous pose problème finalement ?
Non, parce que c'est pas uniquement une affaire de représentation politique, c'est y compris sur des campagnes, mais une thématique où là c'est pas la représentation qui compte. Mais il est clair que si on fait des comparatifs de ce qui est investi dans certaines campagnes, encore une fois sur des sujets et pas sur des élections, où il y a un clair clivage gauche-droite, souvent les moyens sont, en présence sont totalement disproportionnés dans les moyens qu'on peut investir dans des campagnes d'information auprès de la population. Et quand on sait maintenant que ces moyens d'information passent essentiellement par les médias traditionnels, même par les nouveaux médias, si vous n'avez pas les moyens de financiers d'investir ces médias, vous avez une prise de parole qui est moins forte dans la population.
Alors Marc Meyer, justement, la droite, plus proche des milieux économiques, obtient peut-être plus facilement des dons ou des financements de campagne que les partis de gauche. Refuser de dévoiler les sources, c'est les protéger ?
Non, ce n'est pas les protéger. D'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Fedele. Évidemment, son parti veut plus d'État. Enfin, il veut que l'État ait la main mise sur tout. Et moi, en tant que libéral radical, j'aimerais justement que les individus puissent mener leur vie le plus simplement qu'ils peuvent et sans que l'État se mêle tout le temps de tout. Et puis maintenant...
Mais là, c'est la population qui saurait un petit peu comment les partis sont financés. C'est pas l'État, finalement.
Bien sûr, mais on peut prendre un exemple. Voyez-vous, très récemment, Moutier a dû voter pour son appartenance cantonale. Les milieux autonomistes ont mis à peu près 200 000 francs dans cette campagne. Il y a des industriels qui étaient pour l'autonomie, d'autres qui étaient contre l'autonomie, qui ont aussi mis des moyens là-dedans. Et probablement que ces partis, d'un côté ou de l'autre, n'avaient pas envie que la partie adverse ou leur partenaire commercial soit au courant de leurs idées politiques. Et moi, je pense que c'est absolument fondamental que les gens puissent continuer à financer ou non un parti sans pression.
Pierluigi Fedele, vous parliez tout à l'heure de ce besoin de transparence, en tout cas dans le financement politique, mais pas d'une transparence à outrance. Hein, vous faisiez référence aux réseaux sociaux. Donc l'équilibre, il est où ? On a quand même l'impression que la transparence, c'est plutôt d'époque.
Alors, ça, c'est d'époque, mais sur la question du financement des partis politiques, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, ça date de largement avant la naissance des réseaux sociaux ou de cette transparence assez malsaine que je décrivais tout à l'heure. Non, encore une fois, je pense qu'on est quand même en droit, la population a un droit de savoir que quand un parti combat certains moyens de juguler, notamment l'augmentation des coûts de la santé, pour prendre un exemple, vous parliez de Novartis tout à l'heure, je pense qu'il y a des prises de position de certains partis dans le domaine où, quand on parle des prix des médicaments, on serait quand même bien posé de pouvoir savoir si ces partis obtiennent des financements d'entreprises qui pourraient payer le prix d'une baisse du prix des médicaments, par exemple. C'est l'exemple que vous donniez tout à l'heure avec Novartis. Encore une fois, je pense que cette transparence, elle est importante. Et je pense que pour juger de l'équilibre, c'est la prompédérance pour l'intérêt public. Que j'annonce sur Facebook ce que je fais de mes week-ends, ça n'intéresse personne. Mais vraiment, quelques voyeurs, mais normalement personne, il n'y a pas un intérêt public prépondérant. De savoir qu'un parti politique bénéficie de financement qui de fait influence ses prises de position publiques, c'est un intérêt politique et public prépondérant. Et je pense que c'est là que l'équilibre se fait entre les deux choses.
Sur ce que vous faites le week-end, vous auriez peut-être 200 likes et sur une intervention que vous déposez au Parlement, 3 likes.
Oui, alors ça, malheureusement, je pense qu'on doit retravailler sur l'intérêt de la chose publique chez les citoyens.
Pierluigi Fedele, peut-être encore un mot par rapport à ce que disait M. Meyer tout à l'heure. Le fait qu'au niveau fédéral, on doive certainement se prononcer, pourquoi pas en 2019, c'est ce qu'on entend. M. Meyer disait qu'il ne faut pas mettre la charrue à l'avant les bœufs et donc ne pas en parler d'ici là dans le canton du Jura. Est-ce que vous partagez cette vision ?
Évidemment non, mais c'est clair, ça fait partie du jeu. Je veux dire, il y a deux manières de faire, c'est soit être proactif et par des interventions cantonales influencer le futur vote au niveau des chambres, encore que j'y crois peu, hein, parce que c'est des chambres assez monolithiques au niveau politique aujourd'hui, elles sont relativement influencées par rien. Donc attendre simplement que ces chambres-là refusent la logique et ensuite de dire, ah ben, vu que les chambres l'ont refusé, on ne l'appliquera pas. C'est un peu ça la stratégie hein, qui est proposée par M. Meyer. Moi, je propose qu'on avance dans les cantons et quel que soit le résultat ensuite au niveau fédéral, il y aura au moins quelques cantons qui disposeront d'un dispositif qui permet une certaine transparence.
Marc Meyer, même question finalement qu'à Pierluigi Fedele. Jusqu'où doit aller cette transparence ? Vous vous dites on ne doit pas dévoiler les ressources financières des partis, mais on sait que cette transparence dans la société, elle est omniprésente. Où c'est que vous, en tant qu'élu libéral radical, vous placez le curseur ?
Ben d'abord, je me réjouis d'être quand même plus ou moins d'accord avec M. Fedele sur le fait que il ne faut pas une transparence à tout craint. Et moi, ce que je constate maintenant chez M. Fedele, c'est que lui, il est pour une transparence à géométrie variable. Hein. Et puis pour ces histoires de financement, Vous n'allez pas nous faire le coup de la Vierge effarouchée. Vous savez très bien que quand il y a une votation sur la santé, eh bien, les assureurs, ils financent une partie. Et les gens le savent, ils ne sont pas idiots. Et le fait de savoir que le groupe mutuel finance ça, ou un autre groupe, qu'est-ce que ça va changer? Les gens le sauront? Oui. Bon, et alors? Est-ce que ça va faire diminuer le coût des primes maladies? Non. Et puis ce qui intéresse les gens, c'est que les coûts de la santé soient jugulés.
Je pense qu'ils peuvent être intéressés au fait que leurs primes augmentent régulièrement et qu'on utilise de l'argent de leurs primes pour financer ce genre de campagne. Je pense que de savoir à quelle hauteur c'est et de pouvoir intervenir auprès de sa caisse, y compris par des actions politiques ou citoyennes, de dire maintenant vous arrêtez avec ce genre de pratique, je pense que c'est quand même important dans le débat public, sur ce domaine en particulier, vu que vous citez le cas des caisses maladies.
Oui, mais c'est faux, puisqu'ils ne peuvent pas passer par les financements LAMAL pour ce genre d'action-là. C'est pour
Toute la transparence qu'on connaît, on sait exactement comment ils financent ce genre d'opération.
C'est vous qui le dites.
Oui, le débat...
Là aussi, la transparence sur les caisses, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être débattu aussi.
Mais justement, est-ce que si par exemple, les partis de gauche sont au courant de certains financements, est-ce qu'ils ne peuvent pas, eux, d'eux-mêmes, le mettre davantage peut-être en avant dans leur communication?
Bon, alors par contre, moi, je suis pour des choses qui soient claires au niveau public. Soit on décide qu'il y a une transparence, il y a des procédures qui sont mises en place. La politique de délation, alors sur les caisses, moins, mais moi, ce n'est pas moi qui vais dire les politiques de délation, le PLR est financé à hauteur de temps par telle personnalité, c'est dégueulasse, je suis contre ce genre de pratique. Mais c'est pour éviter ce genre de pratique, justement, qu'on doit mettre en place des procédures publiques qui évitent ce genre de délation. Par rapport aux caisses, la problématique, c'est que là, on n'a aucun moyen de savoir ce qui s'y passe. Donc dénoncer des faits qui sont de toute façon pas prouvables, parce qu'il y a une transparence proche du néant, ça, c'est compliqué.
Alors, on verra déjà l'aboutissement peut-être de l'initiative déposée par le Parti Socialiste Jurassien. On aura donc l'occasion de reparler très largement de cette transparence dans le financement des partis politiques. Troisième thème, faut-il permettre aux jeunes de voter dès l'âge de 16 ans? Question posée à nos voisins de Bâle-Campagne le 4 mars dernier. Et c'est un non canon qui l'a emporté, 84,5%. En Suisse, seuls les Glaronnais peuvent aujourd'hui élire et voter dès l'âge de 16 ans. Alors Pierre-Luigi Fedelet, est-ce qu'on est trop jeune pour comprendre les enjeux et s'exprimer de manière crédible à 16 ans?
Alors, je ne pense pas. Moi, j'ai beaucoup évolué sur cette question parce que j'y étais, jusqu'à il y a quelques années en arrière, plutôt opposé. Alors j'étais en passe de devenir un peu un vieux con, maintenant je ne suis plus qu'en train de devenir vieux peut-être, certains considérant que l'autre partie est acquise depuis longtemps, mais j'ai un peu évolué et moi je suis plutôt favorable, dans le sens où finalement, à partir de cet âge-là, on commence à donner un certain nombre de responsabilités. C'est des jeunes, d'ailleurs on les traite comme ça en disant vous entrez en études ou vous entrez en apprentissage, vous êtes considérés maintenant comme des adultes. Quand on est en apprentissage, on doit fournir une force de travail à un employeur qui vous salarie pour ce genre de choses, au-delà de l'apprentissage en tant que tel. Et je pense que dès le moment où on commence à donner des responsabilités, donc des devoirs à des gens, parallèlement on peut aussi leur octroyer des droits. Et je pense que ça va, rien changer sincèrement à la crise démocratique qu'on vit dans nos sociétés occidentales. C'est pas ça qui va augmenter le taux de participation, j'en suis persuadé. Mais c'est une question de principe. Dès le moment où on demande des obligations, on peut aussi accorder des droits et le droit de vote peut en être un.
Rapidement, avant d'entendre M. Meyer, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Bon, c'est un peu comme tout, on réfléchit à toutes sortes de choses. Et puis voilà, il y a de temps en temps, le dogmatisme gauchiste auquel je suis souvent associé connaît quelques exceptions.
Alors, Marc Meyer, faire voter les jeunes avant 18 ans, est-ce que finalement, d'ailleurs, M. Fedelet en a parlé, est-ce que ce n'est pas favoriser l'intérêt à la chose publique, à la politique?
Alors pour l'intérêt à la chose publique, je ne pense pas que l'abaissement changera quoi que ce soit. Vos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais j'enseigne à la division technique à Porrentruy. Donc j'ai justement ces jeunes de 16 à 20 ans. J'enseigne la culture générale, donc ça fait partie de mon mandat de leur enseigner le civisme, les institutions politiques. Et je me rends compte que quand ils arrivent à 16 ans, ils ont juste aucune idée.
Et on ne doit pas leur expliquer.
Alors, on leur explique, justement. On leur explique, ça fait partie du mandat. Mais avant de prendre des décisions importantes, il faut un substrat de connaissances. Et puis ce substrat, ils ne l'ont pas.
On a plus aussi, à 18 ans.
Je pense. Et puis, il y a aussi la question du Parlement de la jeunesse. Il se trouve que c'est moi qui étais responsable de trouver des jeunes pour le Parlement de la jeunesse dans cette école. Et c'était la croix et la bannière pour trouver des gens. Donc, l'intérêt, je ne pense pas qu'il vienne de la part des jeunes, ou en tout cas pas de son immense majorité. Moi, où je vois un vrai problème, puis ça, c'est un problème qui est fondamental dans cette affaire, c'est l'absence de concomitance entre les droits et les devoirs. À 16 ans, on n'est pas majeur. Alors, il faut soumettre quand même ceci à une sorte de stress test. Si vous avez un jeune qui a le droit de vote à 16 ans, ça signifie également qu'il a le droit de se présenter. Donc, s'il se présente, il a une chance d'être élu. Comment vous faites si un jeune de 17 ans est élu maire de sa commune et ne peut pas signer les papiers de la commune parce qu'il n'a pas l'exercice des droits civils? Il faut qu'il y ait une vraie concomitance entre l'exercice des droits civils et l'exercice des droits civiques.
Au-delà des droits, un jeune de 18 ans est forcément moins compétent qu'un adulte de 67-68 ans qui devient maire après être passé à la retraite?
Non, pas du tout. La question, elle n'est pas là. On a choisi arbitrairement, d'ailleurs... Moi, j'ai eu mon droit de vote à 19 ans et des poussières parce que c'est... Avant, c'était 20 ans, la majorité, puis ensuite, c'est descendu à 18. Donc moi, j'ai même pas pu fêter ça le jour de mes 20 ans. On a décidé arbitrairement que c'était 18 ans. Ça peut être 17 ans et 10, ça peut être 16. Moi, ça m'est égal. Moi, je suis d'accord de rentrer en discussion, de dire, bon, ben maintenant, on abaisse la majorité à 16 ans. Je pense que c'est une erreur, mais si on fait ça, il faut le faire correctement et que les droits et le devoir soient acquis au même moment.
Pierre-Louis Fedele, si on votait à 16 ans dans le Jura, est-ce que ça pourrait renforcer un ou l'autre parti politique?
Non, je
pose la question parce qu'on dit souvent que les jeunes sont plus de gauche que de droite.
C'est une question plus académique qu'autre chose. Hein. C'est une question, encore une fois, de principe et de droit. Je ne pense pas que ça changerait fondamentalement les valeurs de l'échiquier politique jurassien. Ça ne déplacerait pas sur les objets fédéraux, cantonaux qu'on vote, ça ne déplacerait pas l'échiquier tant que ça. Voilà, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont représentatifs, en gros, des mêmes courants de pensée que les gens qui ont 2, 3 ou 5 ans ou 10 ans de plus qu'eux. Donc, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Où je ne suis pas d'accord avec M. Meyer, c'est sur le fait qu'on devrait absolument associer un droit de vote, un droit d'éligibilité. C'est pas une pratique qui est forcée. Et je rappelle que d'ailleurs, sur une catégorie de la population, dans le Jura ou en Suisse, alors dans le Jura, on est un peu plus libéral qu'ailleurs en Suisse, c'est les étrangers qui peuvent avoir le droit de vote dans le canton du Jura, mais qui n'ont pas accès à toutes les places éligibles. Donc on peut très bien prévoir des processus qui permettent le droit de vote à 16 ans, sans prévoir encore le droit d'éligibilité dans un conseil communal, à la mairie ou au Parlement jurassien.
Marc Meyer, dans le Jura, permettre aux jeunes de voter dès 16 ans, est-ce que ce ne serait pas finalement un témoignage de confiance envers eux?
Si je dis non, on va me taper dessus. Je pense que c'est pas une question de confiance ou d'absence de confiance. Moi, j'en reviens. Pour moi, c'est quand même fondamental qu'on acquiert des droits et des devoirs en même temps. La plupart des jeunes de 16 ans, bon, certains font des apprentissages, d'autres partent au lycée, mais globalement, ils ont une activité économique relativement faible et voter. Donc, même s'ils gagnent de l'argent, en principe, ils payent pas d'impôts parce qu'ils gagnent relativement peu à leur apprentissage. Et donc. Ici, les jeunes devraient être amenés à se prononcer sur des questions qu'ils n'ont pas financées eux-mêmes par le biais de l'impôt, par exemple. Mais c'est pas une histoire de confiance. Ces jeunes, vous savez, moi je les ai à l'école. Souvent, on entend ouais, il y a plus de jeunesse. Moi, je peux vous dire, c'est tout faux. Ils sont extra, ces jeunes. En tout cas, ceux qu'on a chez nous, ils sont vraiment bien.
Pierre-Louis Fedele, vous qui avez évolué dans votre réflexion sur cette question, selon vous, donc, qu'est-ce qui change vraiment entre 16 et 18 ans? Si vous êtes désormais favorable à un vote des 16 ans.
En fait, pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on peut très bien ramener cette logique-là à 16 ans. Je ne pense pas qu'un jeune entre 16 et 18... Alors, chacun vit des expériences personnelles qui font que tout d'un coup, il y a un degré de maturation personnelle qui augmente en 2 ans, c'est possible. Mais je crois que globalement, les choses ne changent pas beaucoup. Je pense que le désintérêt pour la chose publique, là, je rejoins un peu M. Meyer, il est aussi fort chez des jeunes de 18 ans qu'il peut l'être chez des jeunes de 16 ans. Donc, encore une fois, là, c'est un discours sur des droits potentiels, c'est pas sur l'utilisation qu'on en fait. Parce qu'il y aurait plein de droits qu'on pourrait ranger au placard, hein, qui sont plus utilisés par les gens, mais qui sont des droits fondamentaux dans notre société. Et je pense encore une fois, comme droit fondamental, de pouvoir ramener le droit de vote à 16 ans aussi, parce que quand on veut apprendre la démocratie, quand on veut apprendre la chose publique, quand on veut apprendre le débat public, il faut le mettre en pratique aussi. Et le vote, c'est aussi mettre en pratique ce genre de choses. Et encore une fois, il y a le même pourcentage de jeunes de 16 ans qui ne sont pas intéressés à la chose publique que dans les adultes. Mais pour le pourcentage qui s'y intéresse, de pouvoir appliquer concrètement par le droit de vote l'intérêt pour la chose publique, je pense que ça peut être extrêmement intéressant.
Alors pour conclure sur ce thème et rebondir, Marc Meyer, l'enjeu pour les jeunes, s'ils pouvaient voter à 16 ans, ce ne serait pas finalement la responsabilisation, se sentir peut-être davantage pris au sérieux, se sociabiliser davantage?
Ben, on a essayé avec le Parlement de la jeunesse et puis on a dû arrêter faute de combattants. Donc je ne pense pas que de reculer l'âge du droit de vote c'est le facteur déterminant qui va faire intéresser les jeunes en politique. Moi, je me suis intéressé très tôt à la politique. Je viens d'une famille où on en parlait beaucoup. Et j'ai attendu d'avoir le droit de vote. Ça ne m'empêchait pas d'avoir des idées. Ça ne m'empêchait pas de débattre à la cafétéria du lycée, d'avoir des discussions enjouées. Le droit de vote, finalement... C'est pas ça qui va créer ce déclic pour l'intérêt de la chose publique.
Alors on verra si un jour le Jura se prononcera sur le droit de vote à 16 ans. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi pas, après ce débat, provoquer davantage et de nouveaux débats dans la classe politique jurassienne. Le dernier chapitre de cette émission nous emmène en Argovie, où les citoyens ont accepté par 61,1% des voix de transformer une partie des bourses d'études en prêts. L'aide financière sera désormais sous forme de prêts à raison d'un tiers, les deux autres tiers restant sous forme de bourses. Berne, Lucerne et Turgovie ont déjà ce modèle appelé splitting. Marc Meyer, dans un contexte jurassien de déficit des comptes et du budget, introduire une telle mesure dans le canton serait-il judicieux ?
Non, c'est complètement... Moi, je suis totalement opposé à ça. On peut pas...
La droite en Argovie, pardon, il voyait un moyen d'économie de 3 millions de francs.
Oui, mais c'est des économies de bout de chandelle. Et puis il ne faut quand même pas oublier une chose. Le système de bourse, il fonctionne. Ce système, il a permis l'émergence d'une élite économique qui n'aurait pas pu émerger sans cela. Donc, moi... Les bourses, c'est un investissement, c'est pas une perte sèche. Donc ça sert à rien. Je crois que pour le canton d'Argovie, ça fait une économie de 3 millions de francs par année. Je ne connais pas leur budget, mais ils ont une population, je crois, d'à peu près 180 000. Donc c'est plus de deux fois la population du canton du Jura. Pour moi, c'est pas une bonne idée.
Pierluigi Fedele, on va vous mettre d'accord avec Monsieur Meyer sur ce thème, évidemment.
Le dernier point de l'ordre du jour permettra une belle réconciliation sur un sujet politique important. Non, je partage totalement l'avis de Monsieur Meyer. Je pense que la formation, c'est effectivement un investissement des pouvoirs publics aussi. Et de pouvoir, sous couvert de nouveau d'économie, transformer le système et complètement dévoyer le sens des bourses d'études. C'est-à-dire, c'est l'accès pour des gens qui n'auraient pas les moyens de se payer des études, l'accès facilité, encore que, hein, même les bourses ne permettent pas tout, mais facilité quand même. Et de repartir dans une logique de prêt, c'est simplement décaler la difficulté pour la personne. Elle va obtenir les prêts, elle va pouvoir financer ses études, mais elle va ensuite ramer des années pour éventuellement rembourser ce prêt, ou c'est la famille, ou c'est les parents. Donc je pense qu'on rentre dans des logiques qui sont absolument détestables. Moi je pense qu'effectivement ça a permis de faire éclore, alors pas uniquement une élite économique, mais sociale, culturelle, politique, et pas qu'une élite, simplement pour des gens qui font des études et qui permettent de financer ensuite un métier, une formation, une activité professionnelle qui les épanouit dans leur quotidien.
Alors si la gauche alternative et la droite libérale radicale est d'accord pour renoncer à ce genre d'idée dans le canton du Jura, on n'a pas à craindre que ça se produise une fois, qu'un parti vienne remettre un petit peu en question le système de bourse tel qu'il est aujourd'hui, Marc Meyer ?
Je pense pas, on en a fait la démonstration. Bon, peut-être que moi je vais me faire taper sur les doigts en rentrant par les libéraux, parce que moi je suis plutôt d'obédience radicale, mais voilà, moi je pense que c'est... Les bourses d'études au sens gratuit, c'est-à-dire on a donné parce qu'on a droit. Hein, c'est pas, on donne pas comme ça à qui veut. C'est la condition sine qua non à la perméabilité des classes sociales. Et puis c'est aussi le moteur de l'ascenseur social. Et ça, on doit pas casser. Si on prend l'exemple de nos voisins, la France, ils ont enlevé un roi pour permettre l'émergence de la classe bourgeoise au détriment de la noblesse. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce système est complètement sclérosé. Et puis que l'ascenseur social ne fonctionne plus. Et ça, notre pays est beaucoup trop riche en diversité pour qu'on prenne le risque d'arriver à une situation comme ça.
Un mot peut-être sur l'endettement de ces jeunes étudiants, Pierluigi Fedele, ne pas donner une aide complète sous forme de bourse, c'est favoriser cet endettement, on imagine, selon vous ?
C'est favoriser l'endettement, mais c'est surtout favoriser le fait que des jeunes, par la pression sociale qu'ils vivent, je veux dire sociale au point de vue économique, hein, renoncent simplement à ce genre de voie de formation et ils vont se rabattre sur des... Alors on sait que, contrairement à ce que dit M. Meyer, il faut sauvegarder le système qui est déjà imparfait. Et on sait qu'en général, les schémas sociaux sont préservés. Hein. C'est qu'un fils de médecin aura plus tendance à faire des études de médecine, un fils d'ouvrier. Et malheureusement, ces statistiques-là continue d'être confirmé d'année en année aura tendance à moins faire d'études. Mais au moins qu'on préserve ce minimum-là, c'est-à-dire que ces bourses qui permettent quand même l'accès à certaines personnes qui proviennent des classes les plus défavorisées d'accéder à certaines études, notamment supérieures, il ne faut absolument pas casser ça. Et là, je rejoins, alors peut-être pas sur la même réflexion, mais en tout cas sur l'aboutissement, je partage totalement la réflexion de M. Meyer.
Alors peut-être à l'inverse, Marc Meyer, c'est pour financer leurs études, des jeunes peuvent prendre un job d'étudiant, ça les responsabilise, ça les intègre un petit peu au monde du travail, tout ça c'est négatif ?
Non, c'est pas négatif du tout. Il faut faire la différence entre un travail qui est absolument obligatoire à la survie des études et puis un travail d'à côté. Je pense que c'est sain que les étudiants aient un petit travail à côté. Moi personnellement, j'étais homme à tout faire dans une crèche à Lausanne. Je réparais les jouets des enfants, j'aurais monté une mezzanine, des choses comme ça. Finalement, c'est aussi enrichissant pour un étudiant de 20-22 ans qui n'a jamais été confronté au monde du travail, d'être confronté à ça. Mais moi, j'avais la chance, je dois le dire, de ne pas être obligé de faire ça. Je le faisais parce que c'était pour peut-être partir une semaine avec des copains skier, parce que mes parents ne me payaient pas ça. Le problème, c'est que si les gens sont obligés d'aller vendre des hamburgers dans une chaîne de fast-food de 20h à 24h, où est-ce qu'ensuite ils ont le temps pour étudier? Et si on les force à faire ça parce qu'ils n'ont pas le choix économiquement de faire autrement, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer de l'échec scolaire et puis ça va prolonger leur formation. Donc en fait, on se sera tiré une balle dans le pied. Les gens, au lieu de rester 4-5 ans aux études, ils vont prolonger ça et peut-être même pour certains, ce sera un échec définitif. Donc non.
Alors, il nous reste une minute, très rapidement pour conclure, même question à vous deux sur la situation jurassienne. Le Jura attribue au maximum 16 000 francs à un étudiant à l'UNI, à l'HES ou à l'EPF, 12 000 pour les CFC, maturité gymnasiale ou professionnelle, école de commerce. Votre regard sur cette situation, Marc Meyer ?
Moi, je serais plutôt quelque chose à géométrie variable, parce que si vous faites vos études à Sion, peut-être que le coût du logement et le coût de la vie n'est pas le même que si vous êtes à Zurich. Je pense qu'on devrait tenir compte des réalités économiques du lieu d'études.
Pierre-Louis Fedele.
Alors, en partageant peut-être partiellement ce qui vient d'être dit, je suis de toute façon pour un élargissement du système, c'est-à-dire de pouvoir prendre en compte d'autres dépenses qui ne font qu'augmenter, y compris pour des étudiants.
Offrir davantage.
Oui.
Très bien, nous sommes au terme de cette émission. Pierre-Luigi Fedele et puis Marc Meyer, merci d'avoir participé à Pure Politique. Vous retrouverez cette émission en podcast sur rfj.ch dans les prochaines minutes. Merci, excellente soirée.
Merci, Paris.
Merci, bonne soirée.
Pure Politique sur RFJ.